Et nous poursuivons avec le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce pourrait être la plus grosse exploitation de gaz de schiste en Europe occidentale. La justice britannique s'apprête à valider un projet dans le nord du pays. Sous l'œil impuissant des habitants sur place, ils craignent notamment des mini-tremblements de terre sur la zone. Vous les entendrez.
Et puis nous donnerons la parole ensuite à notre envoyé spécial près de Mexico Beach en Floride. L'ouragan Michael y est arrivé hier. Les dégâts pourraient y être considérables.
Le Dow Jones dévisse en bourse et maintenant le Nikkei. La faute à une petite phrase du président. Président Donald Trump hier sur la banque centrale américaine, nous y reviendrons.
L'alcool doit être davantage taxé selon des médecins pour pouvoir mieux financer la lutte contre les addictions. Ils interpellent la ministre de la Santé, parole d'une épidémiologiste dans ce journal.
Parole aussi d'un éleveur qui subit la sécheresse en Franche-Comté. 62 départements français sont sous restriction d'eau en ce moment. Et puis dans un quart d'heure dans son billet politique, Stéphane Robert s'interrogera sur le prix politique d'une réforme ou d'une décision, prix qui n'a rien à voir avec son prix comptable. La France et l'Allemagne l'ont interdit. La Grande-Bretagne s'apprête à relancer son exploitation. Le gaz de schiste pourrait bientôt être prélevé en masse dans le nord de l'Angleterre. Après un moratoire de 7 ans, la Haute Cour de justice pourrait donner son accord aujourd'hui à la fracturation hydraulique sur le site de Preston New Road dans le nord-ouest de Manchester. Des habitants, eux, ont encore manifesté contre ce qui pourrait devenir la plus grosse exploitation de gaz de schiste en Europe occidentale. C'était hier la manifestation et Antoine Gignot y était pour France Culture.
Tout est déjà prêt avec au-dessus du puits une gigantesque tour en métal qui s'élève au milieu des champs, des vaches et des bois. Un cauchemar pour John Hobson, il habite à quelques centaines de mètres.
Quand je regarde le paysage ici et ça, tous les problèmes que cette industrie entraînera avec des émissions partout, avec des camions, des poids lourds partout, je ne peux pas croire ce qui se passe. C'est pas bon, c'est pas juste.
Et la plus grande crainte, c'est la pollution des nappes phréatiques. Même si les responsables de la société d'extraction affirment qu'il n'y a aucun danger, les derniers essais, il y a 7 ans, ont provoqué des mini-tremblements de terre, explique Barbara Richardson, présidente de l'association locale.
Ce site est tellement grand qu'il pourrait y avoir 40 à 60 forages qui descendraient tous à 2 km sous terre, avec des tuyaux sous les champs, sous les maisons. Il y a 2000 personnes qui vivent à moins de 3,5 km d'ici. Il va y avoir un impact sur beaucoup d'habitants. Dans chaque puits, on va envoyer entre 20 et 30 millions de litres d'eau. On ne pourra en récupérer que la moitié. Ce qui ressort, c'est de l'eau souillée qu'il faudra transporter ailleurs pour la traiter. Alors il suffit que ça déborde ou qu'il y ait une fuite. Ça m'inquiète.
Les défenseurs du projet, eux, avancent des chiffres. Le gaz dans le sous-sol pourrait couvrir la consommation du pays pendant un siècle. Son exploitation pourrait générer 64 000 emplois. Chiffre invérifiable pour l'instant.
Le gaz de schiste, mais aussi le pétrole de schiste, sont déjà lourdement exploités aux États-Unis selon la même méthode. Une utilisation qui prend de plus en plus de place dans le secteur pétrolier américain d'ailleurs, même si les plateformes pétrolières en offshore restent nombreuses. Hier soir, certaines d'entre elles ont dû être évacuées par précaution à cause du passage de l'ouragan Michael. Elles représentent environ 40% de la production dans le golfe du Mexique et devraient fonctionner de nouveau d'ici 4 à 5 jours. L'ouragan Michael, qui a provoqué des vents impressionnants soufflant à 250 km/h sur les côtes de Floride hier, faisant au moins un mort. Les dégâts impressionnants donc, comme a pu le constater notre envoyé spécial Grégory Phillips. Il vient d'arriver dans la région de Panama City et de Mexico Beach et il raconte.
Impossible de compter les arbres et les poteaux électriques tombés à terre en circulant de nuit sur ces petites routes du nord-ouest de la Floride. On a l'impression que toute la région est passée dans l'essoreuse d'une machine à laver. L'ouragan a tapé en fin d'après-midi avec des vents à plus de 250 km/h. Rien vu de tel depuis au moins 100 ans, disent les autorités. Deux villes de la côte ont été particulièrement touchées, Panama City et ses 35 000 habitants, et surtout Mexico Beach, toute petite station balnéaire d'un millier d'âmes. Les premières images en provenance de la zone montrent des maisons en bois emportées comme des fétus de paille et un front de mer totalement inondé. Maintenant, l'ouragan s'est affaibli et poursuit sa route vers l'état de Géorgie et les deux Carolines. En Floride, il est encore trop tôt pour faire un bilan. Les conséquences du passage de Michael auraient pu être beaucoup plus graves si l'ouragan avait touché une grande ville. Sur la radio locale, l'animateur prévient toutefois, attendons demain le lever du jour pour voir l'étendue des dégâts.
Grégory Philips, en France. Par ailleurs, ce sont de fortes pluies qui s'abattent sur le sud en ce moment. Météo complète à la fin de ce journal. Et puis le climat qui se déchaîne encore en Indonésie. La terre a de nouveau tremblé hier soir. Un séisme de magnitude 6 au large des côtes des îles de Java et de Bali. Deux semaines après le séisme qui avait suivi un tsunami sur l'île des Célèbes. 2000 personnes, je vous le rappelle, y avaient trouvé la mort. Et si sur place le besoin d'aide reste criant, ce matin les recherches pour retrouver d'éventuelles victimes vont s'arrêter.
8h06 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Après Wall Street hier, ce sont les bourses asiatiques qui dévissent ce matin.
Moins 3,9% pour l'indice Nikkei, moins 3,2% pour le Dow Jones hier, une chute de 4,1% pour l'indice du Nasdaq, vente panique donc, quand dans le même temps Apple, Amazon, Netflix ont vu leur valeur boursière s'effondrer de 120 milliards de dollars. La faute, entre autres, à Donald Trump, qui a accusé hier la Fed, la banque centrale américaine, de devenir folle en relevant ses taux. Les explications de Pierre-Yves Dugas.
En accusant la banque centrale américaine d'être folle et donc responsable de la chute de Wall Street, Donald Trump, en campagne, veut faire porter à la Fed le chapeau. Depuis son élection, il cite fièrement la forte hausse de Wall Street comme preuve de la qualité de sa politique. Le président américain, qui se bat pour garder le contrôle du Congrès, ne veut pas maintenant perdre cet argument. Les corrections boursières ne sont pas nécessairement mauvaises, au contraire, et l'économie des États-Unis se porte bien, trop bien peut-être. Hier, les obligations n'ont pas profité des dégagements opérés sur les actions. C'est le signe d'une crainte de surchauffe de l'économie qui réveillerait l'inflation et pousserait effectivement la Fed à multiplier les hausses de taux directeurs. En qualifiant hier encore la Chine de plus grande menace pour la sécurité des États-Unis, l'administration Trump a fait trembler Wall Street, qui ne veut pas que la guerre commerciale dégénère en guerre froide.
Washington ne donnera pas un dollar pour reconstruire la Syrie. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, l'affirme. Pas un dollar tant que les forces iraniennes ou soutenues par l'Iran seront présentes en Syrie. Voilà ce qu'il a dit hier. Cela devient une habitude pour la marine royale marocaine. Pour la deuxième fois en quelques semaines, l'armée du pays a tiré sur un bateau rapide en mer Méditerranée. Un bateau qui transportait 58 migrants vers les côtes espagnoles. Une personne a été touchée à l'épaule. Il y a trois semaines, la même marine marocaine avait tué une étudiante en tirant aussi sur un bateau, provoquant une grande émotion dans le pays. Nous l'évoquions hier, ici même, l'Organisation internationale de la francophonie qui se cherche une nouvelle secrétaire générale à l'occasion du sommet de la francophonie en Arménie. La Canadienne Michaëlle Jean est candidate à sa propre succession. Elle est en concurrence avec une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui a les faveurs de l'Union africaine et d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État français est arrivé hier soir à Erevan et il va devoir faire attention à ne pas utiliser la francophonie comme un outil de politique étrangère en faveur notamment de l'Afrique. Ses partenaires africains y seront vigilants notamment au vocabulaire employé, comme nous l'explique Caroline Roussy. Elle est docteure en histoire de l'Afrique contemporaine.
On observe quand même qu'il y a un certain nombre de mots de représentation, mais qui charrient du racisme au quotidien. Comment est-ce qu'on peut créer une communauté? Comment est-ce qu'on peut vivre, même ensemble en France, quand on considère encore, aujourd'hui, les Noirs comme des êtres inférieurs? Ce n'est pas possible. Les mots tribus, les mots ethnie, par exemple, ce sont des mots qui renvoient à un imaginaire un peu de sauvagerie, de barbarie, qui ne rend absolument pas compte de la diversité des Afriques. Il y a deux narrations aujourd'hui qui coexistent. L'une qui montre que l'Afrique, finalement, c'est guerre, famine, sida, ou l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado, c'est le prochain continent à développer. Et sans aucune nuance, sans jamais considérer la complexité. Et qui donc efface également la parole des Africains. Et c'est pour ça aussi qu'on a vraiment pensé cette francophonie sur des valeurs d'égalité et de fraternité. C'est donner la parole à l'autre et l'écouter. C'est aussi pour ça que, bien évidemment, le travail de décolonisation, des représentations, des savoirs reste à faire.
Caroline Roussy, docteure en histoire de l'Afrique contemporaine à l'Université Paris 1, avec Maïwenn Bordron. Avant ce sommet de la francophonie donc, auquel assistera bien sûr Emmanuel Macron, il se tient à Erevan en Arménie.
Et d'ici là en France, il n'y aura pas de remaniement, Clara.
Non, malgré les critiques, Emmanuel Macron va prendre le temps pour remanier plusieurs ministères. Il le dit par la voix du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. niveau. En attendant, on parle retraite en France avec la suite des consultations sur la réforme des retraites. Le gouvernement hier a dévoilé ses premiers arbitrages qui satisfont la plupart des partenaires sociaux sans dissiper toutefois toutes leurs craintes. Ce sera donc un système par points financé par tous les travailleurs jusqu'à 10 000 euros bruts de revenus mensuels, soit qu'ils soient salariés du public ou du privé. Une majoration sera accordée dès le premier enfant. Les syndicats, eux, craignent toujours une casse des statuts et des spécificités liées à la pénibilité du travail. La réforme des retraites, le gouvernement a quitté ou double. Nous en parlons avec nos invités, toujours et Guillaume Erner, juste après ce journal. Avant cela, sachez-le, le Sénat irlandais a voté hier l'instauration d'une mise en garde contre le cancer sur toutes les bouteilles de vin. C'est une première en Europe. Alors qu'en France, dans le même temps, certains médecins écrivent une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur ce sujet justement. L'alcool, disent-ils, est le grand absent du financement pour lutter contre les addictions. Les boissons alcoolisées sont responsables de la mort de 49 000 personnes chaque année, mais c'est aussi la deuxième cause de cancer en France. Ces boissons devraient donc être taxées, davantage taxées, au même titre que le tabac. C'est ce qu'explique ce matin l'épidémiologiste Catherine Hill, l'une des signataires de cette lettre ouverte.
C'est pas un scoop de dire que l'alcool est une cause de cancer. L'alcool est une cause très importante de cancer, surtout en France où on boit beaucoup. S'il s'agit de donner des informations correctes aux gens, il faut leur dire combien on boit trop en France et qu'il faut absolument que les gens boivent moins et pas se cantonner aux femmes enceintes et à l'alcoolisation des jeunes. On ne sait pas en France parce que les lobbies de l'alcool sont d'une puissance incroyable, donc on ne fait rien en France sur l'alcool, quoi qu'on dise. Il y a écrit « avec modération », personne ne sait ce que ça veut dire, on n'a jamais défini la modération. La modération, c'est de ne pas boire plus de 10 verres par semaine. Et ce sont des petits verres qu'on vous sert dans un café. C'est 10 grammes d'alcool pur par verre. La consommation en ce moment en France, si on répartit tout ce qui est bu sur toute la population de 15 ans et plus, c'est 2,6 verres par jour. Donc on est très très loin du compte. Or, on attribue à l'alcool 28 000 cancers en 2015, 16 000 chez les hommes et 12 000 chez les femmes. Et la première cause, c'est le cancer du sein. Un verre par jour augmente le risque de 10%.
Voilà pour l'alerte lancée par l'épidémiologiste Catherine Hill. Venons-en à cette affaire jugée au tribunal correctionnel de Paris à partir d'aujourd'hui. Le groupe Total est poursuivi pour corruption d'agents publics étrangers. Cela concerne des contrats pétroliers et gaziers conclus en Iran dans les années 90. Le tout sur fond d'embargo américain. Florence Turm.
L'enquête qui débute en France en 2006 va se concentrer sur deux contrats conclus dans des conditions suspectes. Le principal, d'un montant de 2 milliards de dollars, a été signé 9 ans plus tôt entre le groupe pétrolier et la compagnie pétrolière nationale iranienne NIOC, autour de l'exploitation d'une partie du gisement de South Pars dans le golfe Persique, considéré comme le plus grand gisement gazier au monde. Le juge d'instruction Philippe Courroy s'intéresse alors à une somme de 38 millions de dollars, dont on retrouve la trace en Suisse, des fonds qui auraient été versés parallèlement de manière illicite à deux intermédiaires iraniens. Christophe de Margerie, le directeur de Total au Moyen-Orient, futur PDG du groupe, se retrouve mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, mais son décès dans un accident d'avion en octobre 2014 met fin à l'action publique à son encontre. Le banc des prévenus risque d'être bien vide aujourd'hui, à l'exception du groupe Total, poursuivi en tant que personne morale, car les deux intermédiaires iraniens mis en examen pour complicité seraient eux aussi décédé. Total a toujours réfuté les accusations de pot de vin ou de rétrocommission dans cette affaire, mais il a par ailleurs conclu un accord de près de 400 millions de dollars avec la justice américaine pour mettre fin aux poursuites engagées aux États-Unis. Un accord qui devrait donner lieu à des demandes de nullité de la procédure de la part de la défense dès l'ouverture du procès.
Cela ne se voit peut-être pas partout à l'œil nu, mais 62 départements sont sous restriction d'eau aujourd'hui en France. La faute au manque de pluie depuis le printemps, de la Loire-Atlantique jusqu'à la vallée du Rhône et la Franche-Comté. La Franche-Comté où des élus du conseil départemental ont voté cette semaine une aide exceptionnelle de 600 000 euros pour les éleveurs durement touchés qui manquent de fourrage pour leurs bêtes en ce moment. Les élus sont donc sortis une grosse enveloppe, comme nous l'explique Olivier Rittmann, chef de file de la droite et du centre et éleveur de vaches à Jussey en Haute-Saône.
Dès la troisième semaine de juillet, le monde agricole avait sollicité le président du conseil départemental afin de mettre en place un système d'aide exceptionnel. Et on était loin de se douter à ce moment-là, il y a presque 3 mois, que la situation irait qu'en s'empirant, puisque depuis ces 3 mois, quasiment pas une goutte de pluie et des très fortes chaleurs n'ont fait qu'accentuer et empirer la situation. On peut dire premièrement qu'il n'y a plus aucun brin d'herbe à manger sur les pâtures par les animaux, mais également les stocks de fourrage qui ont pu être faits au cours de la fenaison commencent à s'amenuiser de manière très importante. On n'est pas le seul pays touché par la sécheresse, ça veut dire que même pour se réapprovisionner, ça va être difficile. Donc le problème est très 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 important et il va être très 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 long et difficile à surmonter.
Voilà pour la sécheresse qui touche les éleveurs en ce moment, les agriculteurs et les nappes phréatiques. Mais au-dessus de nous et dans le sud notamment, il pleut en ce moment. Le département du Var est sous vigilance pluie, inondation et crue. Une personne y a disparu hier soir. Averses orageuses également dans les Bouches-du-Rhône, la Corse, le Gard, l'Hérault et les Alpes-Maritimes. La pluie va arriver par ailleurs par la Bretagne aujourd'hui. Comptez 15 degrés à Brest et Strasbourg, 18 à Lille, Grenoble, 15 à Brest donc, 19 degrés à Paris, 22 à Marseille.